Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Il s'agit du 37e et dernier épisode avant quelques semaines de congé d'été, pour mieux revenir en septembre. J'ai rencontré mon invité de cet épisode très loin de là où il vit. En effet, il était invité par le Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer pour parler de son travail de journaliste en Haïti. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu à la télévision ou entendu à la radio, parce qu'il intervient régulièrement dans les médias québécois pour informer de ce qui se passe là-bas. J'ai alors profité d'un petit créneau libre dans son horaire chargé pour enregistrer une entrevue avec lui à Montréal avant qu'il reparte pour Haïti. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Étienne.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici sur le plateau, chez ta maman.
Oui.
Mais toi, ça fait longtemps que tu vis plus ici. Uh-huh. Est-ce que tu pourrais te présenter puis expliquer un peu, déjà, pourquoi je t'ai invité dans ce balado-là?
C'est à moi de répondre à ta question.
Je laisse toujours les gens se présenter parce que je trouve que c'est intéressant aussi que chaque personne puisse mettre en avant ce qu'elle veut dire d'elle-même.
Oui, non, je comprends. Mais moi, je suis journaliste et rédacteur en chef de Haïti Magazine et je collabore avec plusieurs médias où je couvre Haïti, où je suis basé en grande partie depuis 15 ans.
Et tu avais un lien assez fort avec Haïti avant même d'y vivre, d'après ce que je sais.
Oui.
Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ça?
Ben, j'ai connu Haïti tout petit. C'est ma mère, justement, qui m'a amené là-bas en 86 pour la première fois, après la fin de la dictature. Il y a eu une espèce d'effervescence à Port-au-Prince à ce moment-là. Beaucoup de gens qui étaient des réfugiés politiques à l'étranger sont revenus. Il y a eu un espoir de renouveau de la démocratie là-bas. Et donc, on est allé un mois à Port-au-Prince. On a profité, surtout à Port-au-Prince, mais ailleurs aussi, on a profité beaucoup de tout ça. J'étais tout petit à l'époque, là. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais. Et puis, donc, c'est 7-8 ans, et puis je me suis vraiment introduit de plein pied à la culture haïtienne à ce moment-là. Après ça, je suis retourné à l'adolescence encore avec ma mère, parce qu'on avait des amis haïtiens qui étaient là-bas, et je suis après ça commencé à retourner dans le début de la vingtaine par moi-même, plusieurs fois dans les années 2000, pour faire des projets là-bas en culture. Surtout, j'ai travaillé pour un festival de films, un festival de musique là-bas, 2004, 5, 6, 2007 et tout ça. Et ensuite, j'y retournais donc chaque année. Et puis, est arrivé le 6 de janvier 2010. Et là, j'ai retourné pour le boulot avec une équipe comme accompagnateur, fixeur dans le jargon. Puis j'ai commencé à accompagner des équipes de télévision et de médias là-bas qui allaient filmer après le séisme, puis à faire moi-même mes propres reportages comme journaliste indépendant. Et ensuite, j'ai décidé de faire mon rêve que j'avais depuis longtemps, qui était de m'établir là-bas, d'acheter un terrain et, près de la mer et de planter.
Est-ce que tu étais déjà journaliste avant le séisme ou c'est vraiment ça qui a donné un coup à ta carrière?
J'étais journaliste à Montréal de 1999-2000 à aujourd'hui. J'ai d'ailleurs commencé à CSM, ma carrière, où j'avais une émission de radio sur la musique. J'étais critique musicale pendant toutes ces années. J'ai écrit une fois ou deux sur Haïti, sur des sujets plus sérieux, mais sinon c'était vraiment la musique, mon beat. C'était ça qui... J'étais issu du milieu culturel et c'est ça aussi qui m'a attiré en Haïti, c'est toute la richesse culturelle là-bas. Et après ça, à cause du séisme, j'ai pris une tangente un peu plus nouvelle dans mon travail journalistique ou dans mon travail en général, mais en même temps en gardant toujours cette couverture culturelle de l'avant quand c'est possible, entre autres avec Haïti Magazine, justement.
Et c'est quoi tes souvenirs d'Haïti de quand tu étais plus jeune?
Bon, c'est sûr, les plus jeunes, c'est des souvenirs de très vagues. C'est souvent des souvenirs qu'on m'a racontés, mais c'est aussi le champ de Mars, des impressions, des routes très très difficile qu'on a parcouru pour se rendre à l'Abadie dans le nord ou pour aller à Jacmel dans le sud. Des routes vraiment qui n'en finissent plus, qui sont toutes déconstruites, qu'il fallait enjamber les montagnes. C'est vraiment ça que je me souviens. Puis je me souviens aussi de du côté, comment je pourrais dire, de la chaleur humaine aussi dans ce pays-là. Des gens qui me connaissent depuis que je suis tout petit, qui m'ont vu grandir, puis qui me rappellent aussi ces moments-là. Donc, c'est aussi beaucoup les gens qui font Haïti, quoi.
Quand vous alliez là-bas, c'était pour faire du tourisme ou vous faisiez autre chose?
Ben, les deux premières fois avec ma mère, c'était pour aller visiter des amis de la famille qui étaient là-bas. Et après ça, je suis allé pour faire des festivals qui m'engageaient pour travailler avec eux. En visitant mes amis qui étaient aussi proches de ces festivals-là. Donc, j'ai continué à travers ça. Ça m'a donné une porte d'entrée. Puis un réseau aussi beaucoup que j'avais déjà un peu, mais qui s'est vraiment élargi par la suite.
Et est-ce que en vivant à Montréal à l'époque, tu avais un lien particulier avec la communauté haïtienne ou pas du tout?
Ben oui, parce que justement, c'est à travers cette communauté-là que j'ai découvert Haïti, c'est à travers des gens qui étaient réfugiés ici que j'ai découvert Haïti, donc il y avait ce lien-là qui existait aussi, puis qui était là quand même à Montréal. Maintenant, ça dépend aussi là où les gens sont pas toujours restés à Montréal, mais il y a beaucoup de gens à Montréal aussi que j'ai connus en Haïti qui sont maintenant ici. Donc il y a quand même une grosse communauté le lien entre Montréal et Haïti, c'est ce qui m'a vraiment incité à poursuivre dans cette voie-là, parce que je savais aussi qu'il y aurait un intérêt plus grand des médias québécois pour la réalité, pour comprendre la réalité haïtienne que d'autres médias qui ne s'intéressent pas beaucoup à Haïti. Donc, l'ambiance culturelle haïtienne à Montréal aussi m'a inspiré. Le lien culturel Haïti-Port-au-Prince est quand même très fort. Montréal-Port-au-Prince ou Haïti-Québec est quand même très fort. Puis c'est ce qui m'a aussi poussé à aller dans cette voie-là.
Est-ce que c'est à cette époque-là que tu as appris le créole ou c'est quand tu es allé vivre là-bas?
Non, c'est avant d'aller vivre là-bas. J'ai appris dans les années 2000. Okay. Puis après, je parlais créole, puis je connaissais un peu Port-au-Prince avec le temps. Puis c'est ça qui a fait que j'ai pu commencer à aider des journalistes à venir sur le terrain après le séisme en 2010.
Et donc en 2010, quand tu déménages là-bas, est-ce que tu avais l'idée de t'établir pour longtemps? Tu pensais que tu allais rester aussi longtemps ou tu t'es dit je reste là le temps que ça se reconstruise un peu et après je reviens? Ou...
Bon, Montréal et Port-au-Prince, c'est pas très loin, c'est dans le même fuseau horaire, c'est 4 heures de vol. D'habitude, ça se fait assez bien. Il y a ça aussi qui joue dans la balance. Mais donc, ça me permettait de venir ici à Montréal quand je veux. Ça me permet toujours de venir quand je veux, quand l'aéroport et les vols. Sinon, pour revenir à ta question, comment je pourrais dire, quand je suis arrivé en janvier 2010, je savais que je ferais mon rêve, en fait. C'est parce que, justement, il y a quelqu'un très proche de moi, il y a deux personnes, mais une de ces personnes très proches de moi qui sont décédées dans le séisme, puis j'avais le goût de continuer ce pont, puis de poursuivre un peu leur travail qui se voulait très proche des préoccupations des gens plus pauvres en Haïti, des gens qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin d'être humanisés, qui ont besoin d'être compris d'une manière humaine et qui ont besoin d'être complexifiés dans la vision qu'on a souvent de pays comme ceux-là, parce qu'on simplifie beaucoup, c'est des réflexes humains peut-être, mais il faut sortir des clichés sur Haïti, puis c'est ça qui m'a aussi poussé, c'est cette volonté de poursuivre un peu ce travail-là à ma manière, avec mes propres compétences, mais en l'idée c'est de trouver un petit terrain que j'achèterais et que j'ai fait en 2012 et sur lequel justement je pouvais m'investir et avoir cette connexion qui serait justement probablement permanente avec Haïti et qui, peu importe ce que je fais, où je vais plus tard dans la vie, mais j'aurai toujours ça pour finir mes jours, j'aurai toujours ça pour comprendre comment la vie peut être simple et belle, même quand on n'a pas beaucoup de moyens.
Et comment tu t'es senti quand t'es arrivé là-bas? Est-ce que t'avais l'impression que t'arrivais à la maison un petit peu ou tu te sentais quand même assez étranger?
Mais comme ça a été plutôt graduel, j'ai eu le temps de comprendre un peu plus la culture, de comprendre aussi le rapport, ben comprendre. Je suis toujours en train d'apprendre sur Haïti, mais ça m'a permis de m'établir là-bas en sachant un peu dans quoi je m'embarquais, dans la complexité des choses. J'ai vu beaucoup d'étrangers entrer, partir d'Haïti, des gens que je pensais qui feraient leur vie là, qui sont partis découragés, et d'autres qui ont des histoires d'amour avec Haïti qui se poursuivent. Donc ça a été aussi de montrer l'exemple, de montrer que c'est un pays duquel on peut tomber en amour et qui est vraiment magnifique à tellement d'égards, qui est tellement riche au point de vue de la musique, de la danse, de la culture, des traditions, qui est tellement différent de tout ce qu'on peut connaître en Amérique. C'est vraiment unique au monde et c'est vraiment aussi au centre de l'histoire humaine avec la fin de l'esclavage, la libération en 1804, qui représente le symbole de la liberté, mais aussi la première république libre de l'histoire moderne. C'est souvent caché dans les livres d'histoire et c'est bien aussi de le rappeler. Donc, continuer à faire du reportage, ça permet de remettre en contexte aussi l'importance qu'a cette culture et ce pays dans l'histoire humaine.
OK. Dans ce balado, la plupart des personnes que j'interroge, elles sont issues d'une famille immigrante ou d'un couple mixte. Toi, t'es québécois de souche, entre guillemets, ou est-ce que t'as un autre héritage que québécois?
Bon, j'ai d'autres héritages blancs que québécois, mais c'est sûr que une grosse partie de ma famille est très ancrée dans l'histoire franco-canadienne. Paluk, c'est polonais, par exemple, du début du 20e siècle, donc c'est mon arrière-grand-père. Si je ne m'abuse, qui est marié une Québécoise. Donc, oui et non. Mais je l'ai d'une autre manière, dans le sens où, en quelque sorte, j'ai immigré dans un autre pays qui n'est pas le Québec. Et des fois, je m'amuse à trouver des comparaisons avec le fait d'habiter dans un pays qui n'est pas sa culture, qui a des repères qui sont différents, qu'il faut réapprendre, qu'il faut s'adapter, qu'il faut à apprendre tout ce qui est des traditions et comprendre aussi les inside jokes et donc ça fait partie aussi de cette biculturalité m'habite aussi à tous les jours c'est là-dessus vraiment que je me sens un peu plus biculturel.
Ben c'était ça ma question, c'est est-ce que au fil du temps, parce que là ça fait 15 ans que tu vis plus au Québec, est-ce que tu te sens encore autant québécois que tu pouvais te sentir à une époque? Est-ce que tu te sens un peu haïtien ou pas du tout? Puis comment t'es perçu toi aussi par les gens là-bas? Parce qu'en plus, blanc, ça veut dire étranger, autant que blanc.
Bon, il y a plusieurs questions. La première, pour répondre à la première, donc je me sens vraiment un peu... je me sens toujours québécois parce que tu peux pas jamais, par ta couleur de peau aussi ou par ton style... Tu te fais repérer assez rapidement comme un étranger en Haïti. Tu peux pas le cacher. Donc, il y a cette différence-là qui est assez notable. Donc, tu habites toujours avec cette étiquette-là dans le front, mais à un moment donné, tu finis par l'assumer, puis par vivre avec toutes les limites, puis les précautions qu'il faut prendre, évidemment, dans un pays où c'est toi qui es la personne en avantage, en minorité, mais en même temps, avec ce que ça implique là, d'obligations ou même des fois de commentaires désagréables, mais c'est plus souvent c'est des trucs de jeunes ados qui essaient de se faire des blagues avec leurs amis, que si tu réponds avec une blague toi-même, ils se font déconcerter, puis ils se font rire d'eux par leurs amis, puis ça fait une bonne blague. Donc il n'y a pas vraiment d'animosité très très forte envers les étrangers en Haïti, au contraire, ce qui est plus comme entre guillemets lourd, c'est que c'est sûr que tu es quelqu'un qui démontre avoir eu de l'argent dans sa vie, en étant occidental, grandi dans cette dans ce luxe occidental et surtout ayant les moyens de se payer un billet d'avion pour aller jusque là-bas, d'avoir des ressources pour vivre là-bas. Donc, c'est sûr que comme un bourgeois haïtien, ben, t'as un signe de dollar écrit dans le front. Fait qu'il faut que tu apprennes à vivre avec ça, avec des gens qui peuvent peut-être venir te voir à cause de ça, puis savoir comment gérer ce genre de choses-là, comment avoir une éthique c'est pas complètement démoli parce que t'entends beaucoup d'histoires tristes. C'est vraiment difficile d'absorber aussi tout ça. Puis des gens qui viennent se plaindre en te demandant de l'argent, mais que comment tu peux aider tout le monde? Tu peux pas non plus tout aider tout le monde. Donc, faut que tu fasses des choix. Comment mettre ses limites morales pour aider les gens? Les urgences? Moi, par exemple, je vais aider surtout, par exemple, quand c'est des cas d'hôpitaux. Tu sais, je vais dire, bon, ben, si quelqu'un est mort, ben, c'est dommage, mais moi, si la personne est morte, c'est trop tard. Tu sais, si tu viens me voir quand quelqu'un est malade, je vais te payer des médicaments. Fait que tu essaies de trouver des limites morales quand tu peux aider les gens, des amis, c'est très difficile. Fait que quand surtout dans une crise comme celle-là où il y a une grande partie de la population qui sont en manque de nourriture, simplement. Là, vu que j'ai des amis qui souffrent d'anémie, puis tout ça, puis là, tu essaies de trouver des plans pour essayer de les aider sans que tu aies à débourser toi-même à chaque mois des centaines de dollars, parce que moi non plus, je suis travailleur autonome, donc il faut aussi que j'ai des gens, puis il y a des gens qui dépendent de moi aussi, qui travaillent avec moi, donc c'est complexe. Je dirais que le plus difficile, c'est économiquement, parce que justement, tu voudrais aider tout le monde, puis tu n'es pas capable. Mais bon, si c'était pas de ça, c'est quand même quand dans des problèmes comme ça, tu peux réussir à avoir une vie un peu décente. C'est un peu stressant, mais quand on connaît bien le pays, on sait où aller, où pas aller, les limites à prendre, à ne pas prendre, mais on peut réussir à avoir une vie un peu, un temps soit peu normale. Puis, ça permet de continuer à voir aussi qu'est-ce que ça pourrait être Port-au-Prince après, tu sais, comment imaginer un Port-au-Prince, le nouveau Port-au-Prince, refaire la capitale avec cette image qu'on a un peu nostalgique de la ville ou qui était une ville de fête, de party, de carnaval à l'année longue et qui a un peu perdu, disons, dans les dernières années.
Puis, une des nombreuses questions, c'était, est-ce que tu te sens un petit peu haïtien? Ou même, est-ce qu'il y a des moments, tu sais, où, par exemple, quand t'es au Québec, tu dis, ah, là, je suis vraiment rendu haïtien sur ce point-là? Ou quand t'es en Haïti, où tu dis, ah, là, je suis encore vraiment québécois dans ma manière de penser, de réagir?
Mais je pense que c'est une réalité qui est le propre de tous les immigrants. C'est-à-dire qu'il y a une biculturalité qui s'installe, et j'ai vu ça beaucoup chez des haïtiano-canadiens. Puis j'essaie de pas trop m'en faire avec ça, de l'accepter puis de l'embrasser. Je fais souvent des créolicismes quand je vais parler français. Des fois, dans les entrevues, je suis comme « Ah non, merde, ça sonnerait bien en créole, mais en français, la blague passe pas. » c'est souvent même des mots français que je rechange du créole puis que je donne le sens créole, mais qui sont pas... En tout cas, fait que c'est, je fais moins attention à mon français. En créole, c'est plus difficile. Il faut que tu fasses vraiment attention pour pas justement franciser trop. Mais... en français, je suis un peu moins attentionné, puis des fois, je créolise mon français, c'est très drôle, quand je reviens ici ou quand je fais des entrevues. Mais sinon, j'essaie d'embrasser les deux. Je pense que ça s'additionne, ça s'élimine pas. C'est pas... tu peux pas être à moitié québécois ou à moitié quelque chose quand t'as grandi dans cette culture-là. Comme les Haïtiens qui viennent s'établir ici après avoir à 20, 30 ans, mais ils seront plus haïtiens un jour. Ils vont toujours rester haïtiens, même s'ils sont aussi québécois. Donc, c'est souvent aussi dans la mixité des cultures, dans les rencontres culturelles, dans les chocs culturels que les nouvelles idées émergent, que les génies artistiques émergent. Donc, c'est pas nécessairement un boulet qu'il faut traîner, mais c'est aussi une célébration puis une richesse qu'a des villes comme Montréal, justement, cette mixité culturelle qui existe sans tomber dans le débat sur l'immigration qui est un peu lourd, mais je pense que c'est quand même une richesse qu'il faut continuer à célébrer à Montréal, qu'elle soit juste anglaise, anglophone, francophone, c'est toujours deux villages qui forment cette ville-là. Et en plus de toutes les autres cultures qui sont venues s'installer au fil des années, on l'oublie souvent, mais tu sais, il y a tellement d'immigration ici avant, au début du 20e siècle, là, toute l'Europe, Irlande, Pologne, tout, partout il y a eu des crises. Souvent, ils sont venus ici, comme ils avaient la peau un peu plus blanche, ça s'intègre plus facilement. Après une ou deux générations, ça, on n'y pense plus, mais c'est, ça a toujours resté un pays d'opportunité. Puis je pense qu'il faut aussi célébrer ça d'une manière ou d'une autre.
Tu parlais du fait que le créole influençait maintenant ta manière de parler. Est-ce que tu as des exemples de ça?
Ben ouais, j'avais dit dans une entrevue la semaine dernière à propos je parlais de musique, puis j'étais pas d'accord avec ce qu'on me prêtait comme intention, puis j'ai dit « Ah, ça serait vraiment traître de me dire ça, mais c'est pas vrai, tu peux pas vraiment dire ça en français. » Mais en créole, tu disais « Ah non, ça serait traître, je peux pas me... » Tu sais, il me dit « Ah, c'est quoi, c'était... » Si on me demandait ma chanson préférée sur un loop, je disais « Ah, ben, je pourrais pas vraiment choisir une. Mm-hmm. » Mais en créole, ça se dit bien, tu sais, « Ah, ça serait traître de me demander ça, ça passe très bien. » C'est une blague un peu qui est habituelle, mais en français, ça marche pas vraiment, on comprend pas trop. Là, l'animatrice m'a repris... bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Puis là, ça continue, on a continué, ça n'a pas trop paru, mais l'animatrice m'a repris, puis ça m'a un peu sauvé en disant, je ne sais plus comment elle l'a dit, mais ce serait. Il y a une expression en français là, pour dire ça, mais ce serait en tout cas mal placé, ou je me sentirais mal de dire ce genre de choses-là. Fait que donc, c'est ce genre de choses-là, des tournures de phrases, des manières de parler, des fois que je me reprends, puis je me dis, ah non, ça c'est vraiment un créolicisme que je suis en train de faire dans mon français. Quand je fais des entrevues, vu à la télé ou à la radio, ça m'arrive souvent, là, j'en fais un ici et là, puis je te dirais que dans presque chaque entrevue, tu peux en trouver une ou l'autre, mais bon, là-bas, je vis surtout en créole, donc c'est un peu normal aussi, puis bon, ça m'amuse, puis ça montre aussi que je commence à comprendre que j'ai bien intégré d'une manière ou d'une autre la culture haïtienne, mais bon, je pense que je me sens plus le besoin de prouver ce genre de choses-là. Aujourd'hui, j'essaie juste de continuer à apprendre, puis à mieux faire mon travail à chaque reportage.
En ce moment, on parle beaucoup d'Haïti dans les médias par rapport à la crise qui se passe là-bas. Mais en fait, moi, je pense à plusieurs de mes auditeurs, auditrices qui sont en France pour des raisons évidentes que mon accent laisse deviner, je pense. Et j'ai pas le souvenir en France qu'on parlait beaucoup d'Haïti dans les médias, beaucoup moins qu'au Québec, parce que je pense que la communauté haïtienne de France est plus restreinte. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui savent pas grand-chose à propos d'Haïti? Qu'est-ce qu'ils devraient savoir pour peut-être un peu sortir des clichés qu'ils peuvent avoir?
Une chose que j'aime bien dire en ce moment, c'est que souvent les groupes criminels armés dont on parle beaucoup à Port-au-Prince, mais ils sont très limités dans leur quartier, ils peuvent pas sortir de leur quartier parce que le reste de la population du pays est plutôt fâché contre eux, ils bloquent le pays et chaque jour il y a des épisodes de lynchage de gens qu'on soupçonne appartenir à des groupes criminels dans les zones libres. Donc c'est il y a une résistance très très forte dans tout le pays pour empêcher que ça se propage encore. Puis souvent, on ne parle pas de cette résistance-là dans les médias. Donc oui, il y a des chefs de bande, mais il y a aussi une résistance puis une morale très, très forte dans le pays là, pour pas que, justement, ça se propage. Sinon, ben, c'est que c'est une culture aussi francophone, une culture très... unique, je pense, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, unique dans l'histoire moderne, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à connaître puis à comprendre. C'est là qu'il y a beaucoup de mythes modernes qui sont émergés, qu'on parle des films de zombies, ben ça vient d'Haïti. Le premier film des années 30, c'est justement l'histoire d'un voyage en Haïti. Premier film de zombies comme tel. Puis quelqu'un qui était revenu aux États-Unis avec la religion vaudou et qui avait zombifié. Donc c'est un exemple. Il y a plein d'intérêts. Puis c'est aussi au carrefour de l'Amérique du Nord et des Caraïbes. Puis ça, c'est très, très intéressant. C'est très nord-américain en quelques sur plusieurs aspects. Il y a vraiment un rapprochement très fort avec la culture occidentale, avec Miami. Et en même temps, c'est complètement différent. C'est vraiment unique. C'est vraiment... Il y a quelque chose de très pur dans cette culture qui existe depuis 200 ans, plus de 200 ans, sans avoir été occupé ou sans avoir... Bon, on a été occupé par les États-Unis pendant 20 ans, mais ça, c'est une histoire. Mais c'est comme cette espèce de rêve de libération qui était très tôt dans les indépendances modernes, la première, en fait, des indépendances modernes post-coloniales. Et donc, ils ont gardé une espèce de richesse culturelle qu'on ne retrouve pas tout le temps, peut-être à Puerto Rico ou ailleurs, dans les Caraïbes, qui est vraiment spéciale et une chaleur humaine, j'en parlais déjà aussi, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. On prend le temps de parler aux gens, on prend le temps de s'inquiéter de comment ils vont, de s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde a mangé, qu'il n'y a personne qui va repartir d'une maison sans avoir mangé. Il y a comme quand même une espèce de philosophie de partage, de communautaire très, très implantée qu'on ne représente pas souvent dans les médias.
Ma dernière question... qui est une question un peu piège, un peu, c'est quoi que tu avais dit, un peu traître. Si tu devais nommer un objet culturel qui te représente toi par rapport à toutes tes influences, qu'est-ce que tu nommerais?
Un objet culturel.
Au sens le plus large.
Je dirais que ce serait une paire d'écouteurs.
Pourquoi?
Parce que la musique, c'est central dans ma vie depuis tout le temps. La danse aussi. J'ai commencé dans le journalisme en couvrant les clubs, la scène DJ de Montréal. Donc, c'est... La musique, pour moi, c'est ce qui me donne de la joie chaque jour dans ma vie. La danse aussi, malgré que je peux pas DJ autant que j'aimerais le faire aujourd'hui, mais je continue à être DJ quelques fois par année, à écouter de la nouvelle musique, à faire une chronique musicale à chaque semaine dans mon magazine, et à vraiment garder ça près de moi. Donc c'est un peu le fil conducteur de toute ma vie. J'ai arrêté de faire du journalisme musical comme tel à temps plein, mais j'en fais toujours une fois de temps en temps quand je peux. Pour moi, mon rêve, ce serait de continuer là-dedans, puis de vraiment parler de musique plus souvent, retourner un peu là-dedans. Mais bon, en ce moment, de musique haïtienne surtout, mais de musique en général aussi. Puis bon, c'est vraiment ce qui me porte d'un endroit à l'autre. Donc, sinon, un speaker, là, un haut-parleur, carrément. Mais bon, ça, c'est un plus gros à traîner.
OK. Ben, merci beaucoup, Étienne.
Puis la radio aussi, comme on fait en ce moment, j'ajoute ça aussi. Donc, ça aussi, c'est un médium que j'adore. Donc, tout ça est représenté dans tout ça. Mais merci à toi aussi de cette belle rencontre. Et cette nouvelle... On se connaît peu, mais on se connaissait déjà un peu. Donc, bonne chance dans la suite et à très bientôt, j'espère.
Merci. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'il y en a 36 autres que vous pouvez d'ores et déjà écouter ou réécouter. Avant de vous souhaiter un bel été, bien qu'il soit déjà bien entamé, je voudrais vous rappeler que Québec au pluriel, c'est aussi un compte Instagram, Québec au pluriel en trois mots, qui restera actif pendant les mois de juillet et août, notamment pendant cette fin de semaine, parce que je m'en vais à Baie-Saint-Paul pour le festif. Vous pourrez d'ailleurs m'entendre dans deux émissions spéciales diffusées entre 17 et 18h, vendredi et dimanche prochain sur CISM 89.3 FM dans toute la grande région de Montréal ou directement sur le site cism893.ca. Cette fois-ci, je ne parlerai pas d'identité québécoise, quoique, mais j'aurai surtout le plaisir de mener des entrevues avec des artistes venus se produire au festif. Enfin, je vous rappelle que Québec au pluriel bénéficie d'un créneau en ondes pendant l'été de 7h à 9h tous les jeudis matins. Encore une fois sur CISM 89.3 FM. C'est la fin des petites annonces. Je vous souhaite donc un bel été en attendant qu'on se retrouve en septembre.